J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de me combattre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux stratégies de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Dans une interview accordée à Radio Okapi la semaine dernière, le facilitateur du dialogue en RDC reconnaît faire face à quelques difficultés à surmonter. Edem Kodjo affirme que les difficultés viennent de ce que les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, n'arrivent pas à donner leurs représentants pour faire partie du comité préparatoire. Entre-temps, certains acteurs politiques d'une frange de l'opposition rejettent la responsabilité du blocage aux facilitateurs. Pour preuve, selon eux, en lieu et place du comité préparatoire, ces derniers proposent plutôt un groupe de travail. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Jidi Pesa Bongonda est au standard, Piro et la Mégie à la réalisation, Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par Jérôme Nguembo sous la supervision de Martin Sebojabé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à vous tous d'être venus dans cette émission. Nous avons Arsène qui va ouvrir les débats depuis Kikwit. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est le commentaire que vous allez faire par rapport à cette thématique?
Merci beaucoup pour la parole. Moi je crois que, à la lecture des choses comment elles vont, je crois qu'il y a trois groupes qu'il faut répartir. Il y a le groupe de l'opposition qui veut bien aller au dialogue, et il y a un autre groupe qui ne veut pas y aller. Alors, le groupe qui doit aller est encore divisé en deux. Ceux qui se disent, écoutez, c'est nous qui avons le partenariat de quoi ça, du dialogue, et ceux qui se disent, écoutez, nous ne pouvons pas être sous les effets de l'UDPS. Mais M. Kodjo, je crois qu'il a des problèmes sérieux. Il doit avoir une bonne lecture de la politique et des hommes politiques congolais. Je crois que, à la première chose, ce qu'il doit faire, c'est de réunir d'abord ceux qui sont d'accord avec lui. Ensuite, il va se dégager une certaine opposition du groupe qui va aller avec. C'est cette opposition-là, il doit aussi réserver une place. Et ensuite, à la fin, il y aura deux groupes, le pro-dialogue, que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition, ils seront dans un cas, le pro-dialogue. Ils vont faire un travail qu'ils vont nous présenter. Et à base de ce travail-là, maintenant ceux qui sont contre le dialogue vont se retrouver dans une opposition contre ceux qui sont au dialogue. De ces deux oppositions, de cette opposition-là, on va maintenant faire la synthèse pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais M. Kodjo doit savoir une chose. Au Congo, en soi, quand on va dans un forum tel que c'est celui-là, ce que le politique vise d'abord, c'est le partage du pouvoir. C'est l'habitude que nous avons. Il doit savoir ça. Pourtant, au même moment qu'on est en train de faire cette histoire-là pour essayer de mettre les histoires en ligne, il y a aussi autre chose qu'il doit prendre comme élément. C'est la mouvance politique actuelle.
Oui, Arsène. Est-ce que vous partagez l'avis qu'il y a quand même des avancées aujourd'hui en lieu et place du comité préparatoire? Edem Kodjo propose un groupe de travail pour éviter d'attendre éternellement la position de l'opposition qui n'arrive pas à fédérer leurs idées.
Mais c'est ce qu'il devait faire en amont. Il est allé trop vite en besogne. Il est allé trop vite en besogne. Mais aujourd'hui, il va maintenant en amont pour faire, après avoir gaspillé assez de temps, mais il doit faire vite, qu'il fasse un groupe de travail, ça c'est pas un problème, il fasse un groupe de travail, et de ce groupe de travail-là, il va dégager les options à suivre. Parce que s'il avançait comme ça, et ce serait du bric-au-brac, et il n'y aura rien. Parce que actuellement, la mouvance politique est tellement en désordre qu'il risque même de ne rien faire, de perdre le temps pour rien. Parce que les Congolais, ils sont bizarres. Il faut attendre que, dans un instant, un moment ou l'autre, boum, les histoires changent et tout qu'on sort. Puis après, c'est rien, c'est de l'argent gaspillé inutilement et de temps.
Oui, mais déjà, ce groupe de travail est mis en cause. D'aucuns parlent de fictifs, des infiltrés, des gens qui ne sont pas réellement de la société civile, mais pourtant qui ont été, en fait, élus ou représentent encore une classe politique, c'est-à-dire soit la majorité ou l'opposition, dans cette société civile, soit-il.
Nous sommes habitués aux contestations JR. Nous sommes habitués aux contestations. Nous avons 28 provinces. Bon, il a donné une place, 12 places pour l'opposition, 12 places pour la majorité, 10 places pour la société civile. Bon, tout ce groupe-là, il faut réunir à chaque province une personne. Vous voyez un peu ce que ça va faire. Donc, il faut qu'il y ait un peu une vision objective de choses, comment elles vont. Parce que sinon, ils ne vont rien faire, rien faire. Pourquoi ? Parce que chacun va chercher à se représenter. Chacun des acteurs politiques va dire, écoutez, moi je suis leader dans mon petit coin, je dois être représenté. Tout ça avec un seul idéal, avoir une portion de pouvoir. Il doit avoir l'objectivité dans ce qu'il est en train de faire, sinon il ne fera rien. Avec la mouvance actuelle, il risque de rien faire. Voilà un peu ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Arsène, de vous plaider pour l'objectivité dans la façon de faire du facilitateur. Au lieu de gaspiller le temps, je crois que l'idée aujourd'hui de la mise en œuvre ou la mise en place d'un groupe de travail, ça aurait été bien avant, même lorsqu'il a annoncé la sortie ou la mise en place de ces comités préparatoires. Mais voilà qu'on a passé le temps, mais quand cela détienne, et vous saluez quand même ces avancées, mais vous demandez à ce qu'on ne puisse pas faire avec le caprice des politiques qui ne voient que leurs intérêts personnels au lieu d'être au service réellement de la nation. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé de Kikwik. Amos, vous êtes à Bukavu. Merci et bienvenue.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les peuples congolais qui nous suivent à ce moment. Bonjour au prédécesseur qui vient d'intervenir. En fait, la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui et la confusion qui plane déjà par rapport à ce que pensait Kojo, je pense que Kojo est dans une situation qu'il ne comprend pas lui-même. Il est dépassé par les événements et il n'a pas pu comprendre ce qu'il est venu faire et l'environnement au sein duquel il veut travailler. Il faut d'abord faire comprendre aux auditeurs que l'AMP, c'est-à-dire la majorité présidentielle, ne peut perdre tous ses alliés, avait beaucoup de stratégies suicidaires pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire trouver le glissement que tout le monde parle actuellement. Et parmi ces différentes stratégies, il y avait la révision de la Constitution, les référendums, il y avait la loi électorale, les dialogues, et aujourd'hui, on a vécu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il est arrivé à un moment donné, la majorité présidentielle tenait un objectif pour le dialogue. Parce qu'elle savait qu'au travers du dialogue, la majorité présidentielle allait tout droit au jugement. Mais à un moment donné, la majorité présidentielle s'est rendue compte que le dialogue n'était plus une stratégie payante pour la majorité présidentielle. Et c'est ainsi que la majorité a abandonné cette stratégie et est passée maintenant par la Cour constitutionnelle qui venait de se prononcer pour ce qui est de l'arrêt qui est justement contesté par la majorité de la population congolaise. Mais moi je me dis, tout le monde qui pensait au dialogue, le premier blocage aujourd'hui pour le dialogue c'est la majorité présidentielle. Parce que pour la majorité présidentielle, elle ne voyait plus l'importance du dialogue et du dialogue parce qu'elle trouvait déjà que l'UDP qui disait que non, elle est prête pour le dialogue, mais l'UDP se disait toutefois, nous allons installer nous-mêmes, nous voulons l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. D'autres partis qui voulaient faire le dialogue, et une partie de l'opposition disait aussi, nous allons le dialogue, mais nous restons catégoriques pour ce qui est du délai constitutionnel. Et pourtant, ce n'est pas la stratégie de la majorité au pouvoir. C'est ainsi que la majorité a abandonné le dialogue et elle est devenue le grand blocage de ce soi-disant dialogue. Et elle a gagné son pari dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est là que je vais dire à Kojo. Kojo devait comprendre qu'il est complètement bloqué, non pas par le parti de ceux qui étaient acquis au dialogue, mais plus par le PPRD et ses alliés qui ont fini par comprendre que le dialogue n'était plus une stratégie payante pour eux. C'est-à-dire que quand on était bloqué, il n'était plus sur quel peut mener la danse. Je voudrais enchérir mes propos en disant que le parti qui continue à penser que le dialogue a encore un chance, le dialogue a été vidé. de tout son contenu en faveur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que la majorité présidentielle a fini par comprendre que c'est cet arrêt qui va lui permettre d'aller au glissement, ignorant qu'il y a encore la Cour constitutionnelle populaire qui est au-dessus de la Constitution, qui est au-dessus aussi de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'Ojo ne doit plus dire non, on va au dialogue, on va faire ceci, parce que à ce dialogue, le dialogue n'a plus sens. Il a complètement été vidé. J'ai dit, assez partir avec côté la voir que le dialogue aura du sens. Mais revenir à la réalité. Je rentre soutenir la population qui n'a pas besoin d'entendre ce dialogue et qui continue à
Oui, quand vous dites que la population n'a plus besoin de dialogue, bon, ça c'est votre point de vue, nous vous le concédons, mais une grande question que moi j'aimerais bien vous poser, est-ce qu'aujourd'hui l'ordonnance présidentielle qui convoque le dialogue, convoquant les dialogues bien entendu politiques, qui parle du comité préparatoire, en lieu et place, le facilitateur propose un groupe de travail, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une confusion au niveau des termes de référence et de l'ordonnance et de la façon de faire du facilitateur?
Monsieur Dier, les auditeurs qui nous suivent doivent comprendre un peu comment que non, le dialogue a été convoqué il y a déjà une année. Qu'est-ce qui empêche que ce dialogue ne puisse pas avoir lieu? On a vu convoquer les soi-disant concertations qui ont bougé plus de 5 millions de dollars du contribuable congolais qui n'ont rien donné comme résultat. L'opposition qui avait décidé de ne pas prendre part à cette concertation, les concertations ont eu lieu avec plus de 700 recommandations qui n'ont rien donné comme résultat. Qu'est-ce qui a empêché à la majorité d'organiser son dialogue? Parce que la majorité avait plusieurs stratégies suicidaires. Et voilà qu'elles ont pu, comme je disais tantôt, que le dialogue n'était plus une stratégie payante pour la majorité. C'est ce qui a contourné cette stratégie. C'est vrai que j'ai dit, il n'y avait pas volonté d'organiser le dialogue, sinon le dialogue aurait déjà eu lieu parce que nous, l'opposition qui n'était pas pour le dialogue, avait dit, allez au dialogue, discutez, si vous revenez avec des résultats qui respectent la Constitution, nous tous sommes allés chercher.
Voilà.
Quand ils ont compris qu'ils sont quelque part, ils sont abandonnés le schéma, et aujourd'hui, le dialogue reste une distraction, et pour le dommage qui avait été publié, et tout ce que vous
Je crois que le dialogue ne pouvait pas être fait à sens unique, sinon ça serait un monologue. Vous avez suivi le facilitateur qui a parlé de l'importance de participation. En fait, quand tout le monde parle d'inclusivité, c'est un dialogue qui devait être inclusif. Et là, disons, lors de son point de presse, il a même annoncé qu'un dialogue sans l'UDPS, c'est rien. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait dire cela, et je sais que les autres, une autre frange de l'opposition ne veut pas entendre, ne veut pas se présenter ou se représenter au niveau de dialogue sur la coupole de l'UDPS. C'est ça qui bloque, c'est ça qui réellement bloque l'avancée de ce processus. Voilà, Amos n'est plus en ligne, on va prendre plutôt Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Je suis toujours en ligne.
Allez-y.
Ok, je t'en disant que par rapport à tout ce que je suis en train de dire, le peuple doit comprendre que nous qui avons dit que le dialogue était un schéma dangereux pour la patrie, pour la nation. Si le peuple congolais devait comprendre, et c'est là que vous allez donner raison à ceux-là qui avaient contesté le dialogue. Dernièrement, Bissakour était invité à l'émission Dialogue entre les Congolais. Je lui ai dit non, c'est là qu'il devait comprendre, parce que si vous essayez de faire une analyse aujourd'hui, vous allez comprendre que même ceux-là qui étaient pour le dialogue aujourd'hui ne s'entendent pas. Même l'une des personnes aujourd'hui aussi ne s'est pas obligée. C'est là que je voulais dire. Tout le monde devait abandonner ce schéma pour que la majorité, elle, croit avoir eu bien des causes, croit avoir gagné son pari à travers l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tous les autres partis là qui étaient pro-dialogue devaient rentrer auprès de la population, mener un combat commun pour défendre l'organisation des élections dans les
constitutionnels. Merci beaucoup, Amos. Merci Amos. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour Gérard et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, Félicien, vous devriez me suivre à Mons malgré des avancées déjà enregistrées dans le processus pour l'organisation du dialogue politique avec la mise en place d'un groupe du travail. Mais bon, à moi, c'est tout de même sceptique, hein, en disant que pour lui, il n'y a pas que cette tranche de l'opposition qui bloque la machine, mais également la majorité qui estime que, en fait, cette stratégie de dialogue n'est plus payante. Voilà pourquoi, bon, ils trouvent que c'est inopportun.
Oui, au point où nous sommes arrivés, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre solution. On doit aller au dialogue et on doit brûler le pays. Il n'y a pas de solution, il y a une seule, on choisit l'une ou l'autre. Moi, je vous dis que tout ce vocabulaire, les groupes de travail, la commission préparatoire, tout ça, c'est rien. C'est un problème d'homme que nous avons dans ce pays. Avec le niveau de médiocrité de la soi-disant classe politique et congolaise, le dialogue peut devenir hypothétique si on y prend garde. Les politiciens n'arrêteront jamais avec leurs agitations et leurs diversations tant que leurs intérêts égoïstes, les intérêts de leur ventre ne seront pas garantis. Nous avons ici une opposition. Il a toujours soutenu le pouvoir indirectement, qui a toujours aidé le pouvoir à arriver à ses objectifs, parce que l'opposition se retrouve du côté du pouvoir. C'est la raison même d'être de l'existence de l'opposition plurielle au Congo. Chacun veut avoir son petit groupe pour avoir droit au partage du gâteau. On veut aller seul avec le pouvoir pour avoir quelque chose. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est même pas un porte-parole de l'opposition ou un chef de file de l'opposition. Ce sont ces politiciens-là, surtout de l'opposition, qui nous ont mis dans cette situation-là. Et ils sont des connivences avec ceux qui sont au pouvoir. Ils ne peuvent pas chercher l'intérêt supérieur de la nation en faisant une cohésion de façon à faire un bloc contre l'autre camp, mais ils sont dispersés.
Oui, Félicien,
de son côté.
Oui, Félicien, parce que vous avez parlé de d'une voie royale pour trouver la solution à cette crise que nous traversons. Vous avez évoqué la nécessité d'aller tous au dialogue. Mais aujourd'hui, est-ce que vous estimez, comme les autres, qu'il y a quand même des avancées après la mise en place d'un groupe de travail par le facilitateur, quoique ce groupe de travail est aussi mis en cause par certains acteurs politiques qui pensent que, voilà, au sein de ce groupe de travail, il y a déjà une taille, il y a déjà la présence de certains acteurs politiques qui se passent pour de la société civile.
Je vous dis, tout ça, ça ne change rien. Les groupes de travail, ceux qui ne seront pas appelés au groupe de travail, ils vont toujours s'agiter, ils vont toujours s'exercer. Mais parce que ici, les gens ne se battent pas pour l'intérêt supérieur de la nation. Les gens se battent pour avoir droit au gâteau, chacun veut avoir quelque chose. Si peut-être on avait dit que on ne gagnerait rien, on ne paierait rien, les gens iront là-bas, il y aurait des bouteilles d'eau pour boire et travailler, et des bus pour ramener les gens à la maison, on ne donne aucun perdième et peut-être ça pouvait résoudre le problème. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'ils vont aller faire un gouvernement de transition, ils vont avoir des postes, il n'y aurait pas d'agitation. Mais ils le savent déjà. Ceux de l'opposition contre le pouvoir, ils savent qu'ils vont aboutir à cela et jamais Edem Kodo aura de la paix parce qu'ils se battront toujours pour être là.
Merci.
Pour avoir part au gâteau.
Merci beaucoup, Félicien. Au lieu que les acteurs politiques soient réellement au service de la nation, mais ils sont plutôt au service de la nation pour leurs intérêts individuels. Merci beaucoup. Ignace, vous êtes en Colombie. Bonjour.
Bonjour, JR. Merci pour l'opportunité. Je pense que d'entrée, je voudrais rappeler que moi, je suis parmi ceux-là qui ont demandé à Edem Kodjo de commencer directement le dialogue avec ceux qui étaient d'accord de participer. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance convoqua le dialogue inclusif. Moi, j'étais très sceptique. Je me disais que l'inclusivité ne pouvait pas se faire en habitant les points de vue des uns des autres qui étaient en présence. Je vais aussi dire que quand on considère le facilitateur, on a comme l'impression, ce n'est qu'une impression, que c'est quelqu'un qui n'a pas bien lu la situation politique, le contexte dans lequel il devait travailler. Vous voyez d'abord déjà, à l'entendre dans ses prises de position, il semble faire une bipolarisation de la scène en considérant d'un côté la majorité et de l'autre côté l'UDPS. Il a semblé oublier que ici chez nous, jusque-là, nous n'avons pas un porte-parole de l'opposition. C'est que l'UDPS devait être considéré aussi comme une partie prenante, comme tout autre parti politique qui devait être convoqué, au lieu de la considérer aujourd'hui comme étant le coach ou le chef d'orchestre qui doit choisir ceux qui devaient participer.
Professeur Ignace, on a l'impression que aujourd'hui l'environnement politique de la RDC constitue une exception de la règle générale en sa politique.
Effectivement, vous voyez, comme je l'ai dit, nous avons une situation très particulière. C'est que lui devait considérer l'UDPS, les autres opposants qu'il a rencontrés et les autres partis qui se déclarent centristes ou non alignés, tout comme, comme on peut les appeler, ils devaient considérer ces individualités, les appeler pour les associer au travail. Pas nécessairement au comité préparatoire. Ceux qui ne seraient pas là devaient être appelés au débat proprement dit. Ça, c'est le premier problème. Un autre problème, c'est que à l'entendre lui-même, il semble à un certain moment prendre parti. Et cela crée des problèmes. Je disais tout à l'heure qu'il n'a pas bien lu qui devait participer réellement au dialogue. La preuve, c'est que quand il prend ceux qui vont aux travaux préparatoires, il se retrouve que ceux-là que lui a choisis ne sont pas exactement les représentants de ceux qu'il croyait, de la composante qu'il croyait prendre. Je voudrais chuter par dire que, en considérant ceux qui étaient, qui sont prêts pour le dialogue, les autres qui ont refusé, il y a une grande France qui a dit qu'elle prendrait acte des résolutions qui seraient prises au cas où elle s'avérait positive. Donc moi, je pense que c'est aujourd'hui le facilitateur qui est en train de bloquer et de consommer inutilement les temps.
Est-ce que professeur, cela n'est pas dit aujourd'hui à cette absence d'une identité définitive de notre multipartisme, parce que c'est vrai, en 90, vous l'avez déclaré, le multipartisme a d'abord à deux, à trois, et puis ça posait problème. Aujourd'hui, l'opposition est plurielle. Est-ce qu'on peut dire que la difficulté, c'est à ce niveau-là? C'est cette identité qu'on arrive à avoir.
Effectivement, il y a un problème. J'ai eu à fustiger notre organisation politique. Je parle en termes du ministère de l'Intérieur. Mmh. On a laissé une certaine latitude où chacun pouvait venir constituer un petit regroupement, une petite histoire de 6 à 5 personnes comme parti politique. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 477, dont plus ou moins 350 ne se retrouvent que dans la ville de Kinshasa. Et alors, avec tout ça, chacun vient se réclamer de telle ou telle position ayant des documents qui attestent qu'il constitue un parti politique et automatiquement un potentiel participant au dialogue sur le plan statutaire. Mais vous voyez, déjà, c'est une confusion. Il aurait fallu peut-être restreindre la loi sur l'autorisation de fonctionnement des partis politiques. À ce moment-là, toutes ces tendances se retrouveraient plus ou moins dans certains grands regroupements politiques. Tout à ce niveau-là, on pouvait lire clairement les quelques tendances qu'il fallait raconter.
Voilà, je crois que nous allons relancer également les débats sur cette question d'identité de notre organisation politique. Sinon, cette confusion risque pratiquement de perdurer et, comme vous l'avez dit, encore vos propos, ça risque d'avoir un impact négatif aussi sur le développement de notre pays, de notre nation. Merci beaucoup, professeur Ignace Ndala, d'avoir appelé de Kolwezi. Docteur Yannick, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, Gérard.
Quel est votre avis par rapport à ça? Quel est le commentaire que vous faites sur cette situation? Denkojo, qui affirme que les difficultés qu'il éprouve en ce moment, viennent de ce que le parti politique, notamment ceux de l'opposition, qui n'arrivent pas à donner leurs représentants pour faire partie du comité préparatoire. Mais en ce temps, certains acteurs politiques d'une branche de l'opposition rejettent la responsabilité du blocage des facilitateurs pour preuve, selon eux, en lieu et place du comité préparatoire, ces derniers proposent un groupe de travail.
Bon, vous savez, en ce genre de situation, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Mais est-il vrai que le fait d'avoir un milliard de partis politiques dans ce pays n'est pas grand-chose, l'avancement des choses. Et vous comprenez que lorsque nous avons plusieurs partis politiques, les idées divergent, et on ne sait pas finalement qui veut quoi. En même temps aussi, Del Pojo se trouve tenu entre le marteau et la clim, parce que la réalité politique de notre pays est tout autre. Les comparant à ce qui se passe sous d'autres cieux, je pense que Delco est effectivement bloqué et il devrait tout d'abord comprendre avec l'Union africaine que le Congo c'est un pays qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, la volonté politique manque. Et je pense qu'il y a des difficultés qui avancent comme il aurait su. Vous avez vu le retard avec lequel les choses se font. Et nous ne savons pas quel jour les choses, ça prendra fin, quel jour le dialogue aura lieu, ça prendra fin quand, les élections auront lieu quand, vous voyez.
Oui, docteur Yannick, c'est vrai, bon, comme l'ont dit à certains de vos prédécesseurs, qu'aujourd'hui, on n'a plus à l'esprit l'essentiel de ce processus qui n'est autre que les élections. Voilà, tout le monde aujourd'hui focalise le débat sur les comités préparatoires, le groupe de travail, mais malgré la mise en place d'un groupe de travail, on se rend compte qu'il y a toujours des éternels insatisfaits, des gens qui continuent à plaider pour le départ, en tout cas définitif, de ce pays, du parti de la terre. Est-ce que vous trouvez cette façon, cette attitude de responsable?
Lui demander de partir ne serait pas sage, il est déjà là. Je pense que le dialogue devra avoir lieu. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qui va découler de ce dialogue-là. Moi, je pense que c'est ce qui est très important. Parce que les efforts ont déjà été fournis. Les gens sont déjà d'accord pour le dialogue, bien que d'autres sont contre. Bon, chacun a son point de vue par rapport à ça. Mais demander à quelqu'un qui est déjà arrivé dans votre pays pour le dialogue ne serait pas du tout sage. Parce que s'il partait aujourd'hui, il faudrait encore après pour chercher tant soit peu à calmer les esprits. Moi, je pense que l'essentiel serait que tous les politiciens congolais puissent d'abord avoir à l'idée que leur vrai parti politique, leur vrai appartenance politique, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Et non le PPRD, non l'IDPS, non l'INP, et j'en pense. Leur vrai et unique parti politique de tous les Congolais s'appelle la
haine. Alors que vous inspire cette phrase du facilitateur qui dit « Dialogue sans l'IDPS, ce n'est pas le dialogue ».
Bon, je pense qu'il ne revient qu'à Delco lui-même d'expliciter cette phrase, mais je ne sais pas, peut-être que selon lui, il dépasse les partis politiques qui se trouvent dans l'opposition depuis très longtemps, et peut-être qu'il dépasse, essaie d'étonner un peu beaucoup de gens sur le problème des transports nationaux, mais il ne revient qu'à Delco lui-même de chercher, de nous donner des réponses par rapport à ça. Mais je pense que, comme je viens de le dire tantôt, les Congolais doivent avoir l'amour de leur patrie, parce que leur vrai et unique parti politique, c'est la RDC.
Merci beaucoup, docteur Yannick, d'avoir appelé de Bounia à l'Ituri. Kalé, vous êtes à Kananga. Bonjour, Kalé. Kalé, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Maître Trésor Junior qui est à Kinshasa. Maître Trésor, bonjour.
Bonjour, Radio Kati. En fait, je dirais, moi, l'idée soulevée par M. Eden Kondio, ce n'est pas une bonne idée. Pas question d'un groupe de travail. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'infiltrés qui pourront par ricochet briser les faces même du dialogue. Moi, je pense, M. Eden Kondio doit prendre le courage d'aller au dialogue avec ceux qui veulent le dialogue. Le problème, a commencé depuis qu'il avait parlé en démontrant les nombres des gens de la classe politique, surtout celle de l'opposition. Le nombre qui a été limité à 10 postes seulement. Il faut qu'il puisse revoir cela au lieu de dire qu'il puisse ajouter même 20 pour l'opposition. C'est ça le problème. Même si l'IDPS ne veut pas de ce dialogue-là, il peut aller au dialogue avec les gens qui veulent le dialogue, comme Steve Ndikaï et les autres qui ont d'abord composé les G5. C'est ça au moins l'idée. Mais en quelque sorte, ils doivent faire le tout en respectant les délais. Parce que ce qui nous concerne, nous Congolais, c'est la tenue des élections en 2016. Ils doivent faire course à la montre. C'est ça ce que je peux vous donner comme suggestion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maître Trésor, d'avoir appelé. Et là, vous vous posez sans doute la question de savoir aujourd'hui, n'est-ce pas là une façon de prendre en otage tout un peuple? Félicien l'avait dit également au cours de cette émission, en parlant ce service qu'on veut rendre. Être au service de la nation et non être au service de la nation pour les intérêts individuels. Voilà au moins autant de questions. Pour vous, vous estimez que le groupe de travail se bien, mais il faut aller au dialogue rapidement et ça rejoint pratiquement le plaidoyer de l'Union européenne qui parle de dialogue dans un délai bref. Donc pour éviter assez qu'on puisse tirer les choses en longueur qui pourrait déranger pratiquement le processus électoral parce qu'il y a des enjeux de l'heure, notamment les élections qui doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup Maître Trésor Junior d'avoir appelé les Kinshasa 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de commenter cette émission sur notre page Facebook.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des casques bleus ce dimanche 29 mai, la MONUSCO organise une série d'activités à travers la RDC. À Kinshasa, un cinéforum sur les actions des casques bleus en RDC aura lieu ce mercredi 25 mai à 18h au Beatrice Hotel. La cérémonie officielle se tiendra vendredi 27 mai à 9h à la place du 30 juin à la gare centrale de Kinshasa et sera marquée par une parade militaire conjointe de troupes de la force et de la police de la MONUSCO aux côtés des forces armées de l'RDC et de la police nationale congolaise. Venons rendre hommage à nos héros.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Dans une interview accordée à Radio Capi la semaine dernière, le facilitateur du dialogue en RDC reconnaît faire face à quelques difficultés à surmonter. Edem Kodjo affirme que les difficultés viennent de fait que le parti politique, notamment ceux de l'opposition, n'arrive pas à donner leur représentant pour faire partie du comité préparatoire. Entre-temps, certains acteurs politiques d'une branche de l'opposition rejettent la responsabilité du blocage au facilitateur pour preuve, selon eux, en lieu et place du comité préparatoire. Ce dernier propose plutôt un groupe de travail qui est déjà opérationnel. Alors, comment commentez-vous cette situation? Maître Sonville, vous nous avez rejoint, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, M. Gilles, bonjour à ces millions d'auditeurs de la radio Pacifique.
Quel est votre avis?
Mon avis est celui-ci, M. Gilles. Parler de groupe de travail, c'est remettre en cause le travail qui a été déjà fait par M. Diem Kodjo par rapport au contact des consorts. Puisque nous avons tous suivi que M. Diem Kodjo est déjà de nombreuses difficultés. Puisque vous savez, dans ce genre de travail, M. Gilles, être facilitateur d'un dialogue comme celui-ci dans un pays où il y a une dimension d'un continent, là où il y a beaucoup de problèmes, ce n'est pas de la bouillabaisse. Heureusement, M. Edom Kodjo est sorti de son silence, de sa peur, en disant qu'il est buté à d'énormes difficultés. Pourquoi il est buté à d'énormes difficultés? Cela, selon lui, venait de l'ordre de l'opposition. C'est à ce moment que je pouvais dire à l'opposition que, par rapport à la préoccupation d'Edom Kodjo, de confier la facilité, la paternité à l'IDPS, il a tout à fait raison, puisque nous ne pouvons pas nous leurrer, monsieur Gilles. De tout ce temps, nous connaissons que la fille aînée de l'opposition, c'est l'IDPS. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose que le pouvoir est en train de chercher. Par rapport à ça, il y a création des faux opposants. L'IDPS n'est pas à sa première préoccupation, l'IDPS n'est pas à sa première revendication, parce que nous avons vécu avec autant de dialogues, autant de réunions qui se sont tenues, l'IDPS a toujours été roulée. C'est ainsi que l'IDPS a dit, en tout cas je voudrais obtenir la paternité pour être rassuré des gens qui vont l'accompagner au niveau du dialogue, puisque M. Gilles faut se rendre compte...
Oui, là ça risquerait de biaiser... toute la suite, parce que on sait tout de même que la coordination de l'opposition n'existait pas. En fait, le coordonnateur de l'opposition n'existait pas aujourd'hui, parce que l'opposition ne s'est jamais mise d'accord par rapport à cette question. Et aujourd'hui, parler de l'UDPS qui doit conduire l'opposition, est-ce une façon d'adopter d'abord cette loi qui est encore en discussion, d'adopter cette idée qui est encore en discussion et qui est loin de trouver un compromis au niveau du Parlement pour dégager en fait une option définitive sur la coordination de l'opposition? Et vous ne pensez pas que ça risque quand même de faire des poussées?
Monsieur Gilles, pour y arriver d'abord, nous disons qu'il y a même certains partis d'opposition qui ne veulent pas entendre parler de ce dialogue, entre autres le G7, là où ADECO, ACO, présidé par Dany Banza, et par ce parti intégrant.
Oui, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au dialogue avec ceux qui veulent aller au dialogue, entre autres l'UDPS et d'autres membres de l'opposition.
Oui, comme l'idée est là. C'est-à-dire que M. Dem Kodjo, en sortant de 14 heures, il a travaillé avec tout le monde et c'est ça la conclusion. Il a trouvé qu'il n'y avait pas du sérieux dans les chefs des hommes politiques congolais. C'est ainsi que pour ne pas perdre du temps, pour l'intérêt qu'il accorde à ce dialogue, pour l'intérêt que la communauté internationale accorde à ce dialogue, et que ce dialogue, soi-disant, n'est pas constitutionnel, peut apporter certaines solutions, avec peut résoudre certains problèmes. C'est ainsi que M. John Kobe s'est dit, il ne peut pas appeler tout le monde. C'est vrai qu'il y a un comité préparatoire, M. J.E. Je ne vois pas pourquoi les autres peuvent être frustrés. Tout ce qu'aujourd'hui, si nous passons, permettez-moi de citer un certain nom, si nous passons aujourd'hui le M. Steve Mikal, pour qu'il soit élu, il a fallu que je prenne avec le président.
Oui, Maître Sonville, il n'y a pas encore un comité préparatoire. Et Dem Kodjo, en lieu et place, a préféré appeler ça un groupe de travail composé uniquement de la société civile.
Donc, composé uniquement de la société civile, nous connaissons la réalité de ce pays, M. J.E. La société civile, elle est aussi utilisée et par l'opposition et par même le pouvoir. Il n'y a pas 4-5 jours que certains membres de la société civile se sont plaints sur votre chaîne, entre autres, Mme Kalanga. Elle se plaint. Il y a d'autres comptes aussi qui ne peuvent pas les trouver là-bas. C'est-à-dire que le problème se situe à tous les niveaux. Mais c'est les hommes Kodjo doivent jouer de sa sagesse, doivent accepter qu'ils soient joints d'un panel de facilitateurs aussi en provenance de la communauté internationale pour qu'ils puissent résoudre ce problème. Mais le plus grand problème ne réside même pas dans le chef de Dem Kodjo. Le plus grand problème réside dans le chef de nos politiciens. Si vraiment ils veulent que ce pays aille de l'avant, la population a beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous parlons des élections, ça ne peut pas se tenir, ça peut se tenir. Nous parlons, et puis, nous aussi, l'environnement même politique actuel, monsieur J.R. On ne parlera pas seulement de l'opposition. Il faut qu'on parle aussi du pouvoir. Puisque aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Vous voulez qu'on aille au dialogue, c'est une vertu certes, mais entre-temps, vous maltraitez l'opposition, vous arrêtez l'opposition, vous menacez l'opposition avec des procès bidons, et comment est-ce que tous ces gens-là, tous ces peuples congolais, peuvent aller au dialogue?
Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi et surtout d'avoir participé à ce débat citoyen. Ferdinand, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Ferdinand, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Ferdinand. Ferdinand, allô?
Allô?
Voilà, Ferdinand, vous êtes déjà en direct. Si vous pouvez, carrément, éteindre votre poste récepteur pour que nous puissions nous suivre par téléphone.
Ah oui, nous suivons et nous voulions intervenir
Voilà, en attendant que la ligne s'améliore, on va prendre Gérard à mon édito. Gérard, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour J.R., bonjour tous les auditeurs de la radio Capi. À mon avis, je trouve que M. Dem Kodjo a raison de dire que sans l'UDPS, il n'y aura pas de dialogue. C'est pour autant dire que les choses n'auront pas de bonnes conclusions. D'autant plus que, à plusieurs reprises, la famille politique, donc la majorité au pouvoir aujourd'hui, à deux, à trois reprises, ils se sont retrouvés soit en contact, soit en concertation. Mais il n'y a pas eu de suite jusqu'à là-bas, la crise continue. Et aussi, si il faut qu'il y ait dialogue, il faut que les signataires de l'accord qu'Addis Abeba soient présents. C'est ce que nous avons suivi, c'est ce que l'UDPS demande. Et l'UDPS a tout à fait raison, parce que le dialogue tire sa source à Addis Abeba. Selon l'opposition, c'est ça. Et même, je peux risquer de dire, et même la majorité de la population congolaise, nous savons tous que nous suivons ce qui se passe, nous savons que le dialogue a comme source l'accord d'Addis Abeba. Et ici, le problème, la difficulté, que nos amis de la majorité, pour eux, les dialogues, a comme source la ville de Kinshasa. Voilà un peu la difficulté que les gens sont en train de vivre.
081 890 1975 pour votre intervention en direct.
La parole aux auditeurs.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiokapi.net. Voilà, merci encore à tous ceux qui, disons, participent à cette émission. Amos disait tout à l'heure que aujourd'hui, on a l'impression que les choses ne sont telles pas bloquées qu'au niveau de l'opposition, mais il y a également la majorité qui, ayant épuisé toutes leurs stratégies, et trouve en compte, en dernier lieu, que ce dialogue n'est plus une stratégie payante. Voilà pourquoi les choses bloquent. Mais que nous sachions, la majorité avait déjà même présenter la liste des membres qui devaient constituer les comités préparatoires. Je crois que cet argument est encore discutable, hein, à mon sens, parce que s'agit là d'une stratégie non payante que en souligne, ils pèsent aussi de leur poids pour que les choses n'avancent pas d'ici la prochaine. Donc il y a quand même des choses à éclairer là-dessus. Alors Maurice, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Bonjour Jérôme Lembo. Permettez-moi d'abord de réagir par rapport en fait au propos de Amos.
Oui,
que le dialogue en fait n'a plus son sens. Au contraire, le dialogue est en train en fait de consolider même en fait son temps par rapport en fait à certains en fait faits en fait évoqués par lui, notamment l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Et je dois quand même lui dire que la Cour constitutionnelle n'a pas parlé d'un mandat, en fait, il n'a pas rallongé le mandat de M. Kabila. Il a juste interprété ce qui est déjà clair, 70, parce que 70 est lié à 73. C'est-à-dire, raison pour laquelle nous disons que nous allons au dialogue, c'est juste pour résoudre ces problèmes au cas où il n'y a pas élection, parce que la Cour constitutionnelle n'a pas dit que non, il n'y aura pas élection. La Cour constitutionnelle est restée dans la limite en fait de la Constitution pour dire que l'article 70 est lié à l'article 73 qui stipule que les élections, le corps électoral est convoqué 90 jours avant le mandat de l'actuel président. C'est-à-dire, il y aura 90 jours attendant la remise et reprise, les présidents demeurent. Alors maintenant, le dialogue va s'appeler sur les cas, à l'hypothèse où il n'y aura pas dialogue. Voilà, je voudrais d'abord commencer par éclairer notre compatriote. Alors, parlant en fait de M. Kodjo, nous avons suivi attentivement M. Kodjo déclarer que le processus en fait, de la mise en place du comité préparatoire était bloqué par l'opposition, notamment les défenseurs, qui traînaient en fait, à lui transmettre la liste en fait des délégués au comité préparatoire. Et la réaction de l'IDPS n'a pas tardé. L'IDPS a estimé que la faute aussi incombait, en fait, la responsabilité incombait à M. Kodjo, qui, pour l'IDPS, constituait quand même une obstruction par rapport en fait, au préalable qui a été posé par l'IDPS, c'est lui relatif au panel de co-facilitateurs soumis par l'IDPS. Et nous avons jugé que ce préalable vaut son pesant d'or par rapport en fait à l'encadrement des résolutions. Nous avons vécu beaucoup de forums, notamment les concertations qui se sont en fait organisées.
Maurice, je crois que les choses ont évolué sensiblement d'ailleurs, parce que de manière très significative aujourd'hui, avec un groupe de travail qui est mis en place, je crois que le travail s'accélère déjà, on atteint déjà une vitesse de croisière.
Non, en fait, le groupe de travail, c'est une, en fait, je peux qualifier ça de, même d'artifice, ou de, en fait, d'astuce, pour essayer un peu de détourner l'attention, en fait, de Congolais qui observent, en fait, M. Kodjo, et tout ce qu'il est en train de vouloir faire. Le groupe de travail n'a pas sa raison d'être pouvoir, parce que on parle d'un comité préparatoire. Nous estimons que ce groupe de travail, c'est juste pour contourner en fait les préalables de l'IDPS qui voudraient
en lieu et place des groupes de travail, qu'il y ait d'abord un groupe d'experts, de co-facilitateurs qui doivent émaner de la communauté internationale, notamment de l'ONU, de l'Union Européenne, des États-Unis d'Amérique et je crois de l'Union Africaine. En fait, c'est juste pour encadrer les résolutions qui seront issues de ce dialogue. Parce que nous estimons quoi? Nous estimons que à chaque fois qu'on va négocier avec un régime qui a le contrôle de l'armée, qui a le contrôle des finances publiques, qui a le contrôle de la police, vous savez ce qui a toujours été avec la suite. Raison pour laquelle il faudra avoir des garanties susceptibles d'encadrer et de préserver en fait les résolutions qui seront issues de ces dialogues. Raison pour laquelle nous soutenons en fait l'idée, en fait la démarche de l'UDPS. Bien que certaines personnes ne peuvent pas comprendre la démarche réelle de l'UDPS. Or, l'UDPS, c'est vraiment un monsieur, en fait, c'est un parti déjà mordu par le serpent à plusieurs reprises, et ne peut pas se laisser faire, et ne peut pas, en fait, décevoir en fait, l'espoir des Congolais qui se reposent sur son dos. Voilà la raison que nous soutenons, en fait, l'UDPS, et nous soutenons également la position qui est, en fait, préconisé par ce parti.
Merci beaucoup Maurice. Pour vous, donc l'idée de proposer un groupe de travail, c'est là des notes donc d'une déviation du projet de l'UDPS qui proposait un groupe d'experts pour résoudre cette difficulté. Merci beaucoup Maurice. Docteur Olivier, vous êtes à Guadeloupe. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour. Juste une petite rectification. Ce maître Olivier, en maître Olivier, à pas à Guadeloupe.
Maître Olivier, alors, bienvenue.
D'accord, oui, merci. Par rapport à la thématique du jour, moi je dirais tout simplement que nous avons des problèmes à relever. Premièrement, il y a un problème dans le chef de Denkoudio, et deuxièmement, il y a un problème dans le chef de nos opposants, c'est-à-dire nos acteurs politiques. Prenons le cas d'abord de nos acteurs politiques. Je pense mieux que nos acteurs politiques... La première des choses, c'est que le principe, ce n'est pas vraiment l'intérêt de la nation. Je fiche l'intérêt privé. Puisqu'à ce moment, nous ne devons pas se privilégier pour réclamer la paternité de l'opposition. Étant donné que nous savons tous bien que l'UDPS est reconnu de tant pis comme étant le père de l'opposition, au moins dans notre pays. Mais ce qui nous préoccupe pour le moment, ce n'est pas vraiment de réclamer la paternité de l'opposition pour se retrouver dans ces comités préparatoires. L'essentiel est d'abord que nous devons signer, puisqu'il y a deux partis maintenant dans l'opposition, il y a certains qui ne veulent pas de dialogue, il y a les autres qui veulent des dialogues. Alors ce qui est très important, c'est que nous devons d'abord signer ceux qui veulent pour le dialogue, ils doivent d'abord signer leurs forces, signer leurs idées pour savoir comment faire pour faire sortir ce pays de cette crise. Alors, deuxièmement, si j'ai dit, il y a un problème aussi dans le chef de Denkoudio, puisque Denkoudio a essayé de gagner beaucoup de temps par rapport à ressortir de ces comités préparatoires. Et maintenant, voilà, nous sommes dans le temps déjà été parti, et jusqu'à présent, comment il peut encore monter un groupe pour juste préparer à l'avance, juste pour faire sortir ces comités préparatoires. L'essentiel pour Denkoudio, c'est qu'il doit d'abord appeler ceux qui ont volonté de participer à ces dialogues, le signer, comprendre leurs idées. Maintenant, comment faire pour le ramener tous à participer maintenant dans ces temps? C'est-à-dire, c'est les gens qui veulent d'abord participer, ils vont signer, ils vont choisir parmi eux les gens de bonne volonté, puisque si ce n'est pas l'intérêt de si ce n'est pas vraiment l'intérêt de la population qui est au devant, c'est l'intérêt privé. Pourquoi privilégier la paternité? Je pense que pour moi, ça sera plus meilleur et de privilégier d'abord l'intérêt de la population. Si on privilégie l'intérêt de la population, on va signer. On va s'attendre comment faire pour aller de l'avant.
Merci beaucoup, Maître Olivier, d'avoir appelé de Guadeloupe. On va prendre le Sacré qui est à Boujimaï. Sacré, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Quel est votre avis?
Très heureux de participer à ce débat si riche. Moi, ce que je déplore personnellement, c'est ce fait que je dis ça, s'il vous plaît, la médiocrité de notre classe politique. Il y a des choses qu'on devrait comprendre et on ne doit pas retomber dans les mêmes erreurs chaque fois. Je ne suis pour aucun parti. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pour aucun parti, mais ça nous fait mal parce que nous souffrons directement ou indirectement de tout ce désordre qui est en train d'être entretenu par nos hommes politiques. Il y a une chose. On parle d'un comité préparatoire. Combien de gens il faut à ce comité? 12 personnes pour l'opposition. Si on donne à Steve Mikaï de pouvoir composer ce comité, qui prendrait-il et qui ne prendrait-il pas, parce que tout le monde voudrait y prendre part? Et aujourd'hui, on va se baser sur quoi pour lui faire confiance? Parce qu'il a parlé hier, et ceux qui ont parlé depuis des décennies, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous avons vu ce que l'UDP a fait en 2006. L'UDP n'a pas voulu participer aux élections. Nous savons ce qu'il y a eu. En 2011, après juste après les réactions, ils ont déclaré qu'il y avait fraude. Et ceci,
Monsieur Sacré. Je crois qu'il y a un adage qui dit la valeur d'un homme n'attend pas les nombres d'années. Un arbre peut rester longtemps dans l'eau, ne deviendra jamais crocodile. Alors qu'on peut dire qu'on peut faire confiance à un enfant qui vient de naître, un enfant qui commence à faire le premier pas, il peut quand même bouger les lignes.
Je suis d'accord avec vous, papa. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire confiance à lui qui ne peut pas faire confiance aux autres? Parce qu'au moins, il dit des textes, on a vu ses œuvres, on a vu qu'ils se sont opposés même à des propositions de beaucoup d'argent, ils n'ont pas accepté des postes, ils n'ont jamais accepté, ils ont montré ce qu'ils sont. Et l'UDP a demandé de pouvoir conduire seulement l'opposition dans cette étape qui est préliminaire au dialogue proprement dit.
Et qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il y a quand même certains partis politiques qui autrefois, en tout cas, ont fait la fierté de l'opposition, mais aujourd'hui, ils sont anachroniques?
C'est ce que j'ai dit exactement. C'est pourquoi j'ai dit que je me tourne vers cette UDP qui a fait ses preuves jusque-là. Et deuxièmement,
oui, même l'UDP peut être aussi anachronique selon certains observateurs.
Non. Quand ça, à cet âge-ci, à ce niveau, je n'ai même pas parlé pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Je veux seulement voir ce qu'elle est. Deuxièmement, ce dialogue est en train de se vider de toute sa substance aujourd'hui. Parce que tout ce qui devrait être dit au dialogue, on est en train d'en parler maintenant. Et puis, si vous comprenez bien, tous ces gens qui s'opposent à ceci ou à cela, tous ces gens-là, ils sont contre ce dialogue et ils sont en train de faire le jeu du gouvernement. C'est ça le problème. Vous me donnerez raison un jour.
Est-ce que vous craignez, comme les autres, qu'aujourd'hui, le fait que les facilitateurs aient proposé un groupe de travail en lieu place de comité préparatoire, déjà la démarche est biaisée?
Non, ça, moi, je ne peux pas m'accorder avec ça. Non, je ne peux pas être sûr. Ça, c'est pas normal pour ce pays dans lequel il y a ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, papa. Les masques des gens sont tombés, ils sont en train de tomber maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se trament et que nous comprenons de loin ou de près. Nous disons simplement qu'on doit aller comme on a commencé. Et bien qu'au Dieu, c'est un homme intelligent, un homme qui a de l'expérience. Nous savons ce qu'il a fait au Togo et nous savons qu'il arrivera au bout parce que c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé les armes chez eux. Il ne voudrait pas non plus que là où il est engagé, il puisse encore y avoir des gardes, cette guerre, etc. Soutenons-le et accompagnons-le. Disons-le la chose. Je crois que nous allons parvenir à ce que nous sommes en train de chercher, ce que tout le peuple attend. On est en train de faire le jeu du gouvernement.
Merci beaucoup, Sacré, d'avoir appelé de Moujibaï. Jean-Pascal, vous êtes à Roux. Merci d'être avec nous d'autres.
Oui, je salue tous les auditeurs. Aller au dialogue, on s'appelle sur les soucis de tous les Congolais, mais beaucoup plus l'idéal nous présente que la vérité est presque menacée par la raison. Vous savez, ici, beaucoup plus au Congo, les gens se cultivent beaucoup plus la raison au lieu de supporter, au lieu de soutenir la vérité. Les gens s'opposent pourquoi? Il a fallu peut-être chercher, voir des moyens de comprendre pourquoi les gens s'opposent pour aller au dialogue. Pourquoi ils ont refusé de participer au dialogue? C'est peut-être ça le problème. Il faut faire beaucoup plus des analyses là pour comprendre pourquoi un groupe refuse de participer au dialogue et un deuxième groupe est obligé pour participer au dialogue. Beaucoup plus, vous savez, la vérité, si la vérité ne se fait pas sentir, elle ne se fait pas voir, on est peut-être des tendances là de supporter peut-être la raison. Ce n'est pas bon. Vous trouverez que toujours nous allons reculer au lieu d'avancer. On va beaucoup plus reculer, toujours des reports et des reports.
Merci beaucoup, Jean-Pascal. Gabriel, vous êtes à Cambove. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'accorder la parole.
Quel est votre avis?
Moi, je trouve que monsieur Ben Kodio avance. Et qu'il faut lui laisser des mains libres. Un groupe technique telle qu'il le veut pour préparer le dialogue, c'est avec utile pour lui et pas pour les politiciens. Il doit s'entrer d'un groupe qui peut lui être utile pour comprendre les enjeux. Pour ce qui est du dialogue, le but du dialogue, c'est arriver à un accord. Un accord sur quoi? Sur une chose. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections dans le délai constitutionnel. L'opposition dit qu'on peut se passer d'autres élections pour se focaliser sur ce qui est utile pour les élections présidentielles, législatives, dans le délai constitutionnel. Voilà ce qui est utile, ce qui oppose les politiciens. Maintenant, qui est l'arrêt de la Cour qui dit que le président peut continuer, mais il n'y a pas encore eu élection pour que le président attende celui qui doit le remplacer après l'élection. Alors, ce qui est utile pour le moment, c'est de laisser Edem Kodjo faire son travail, c'est que tout ce qui divise l'opposition aujourd'hui et le pouvoir, c'est ces deux points importants. Mais il faut attirer l'attention de la majorité présidentielle. Et on ne peut pas commencer à dire le président va continuer après. Mais il n'y a pas d'élection. La Cour n'a pas demandé non plus à Kabila de continuer sans qu'il y ait élection. Donc il faut que la majorité se taise, qu'on aille au dialogue. Le but du dialogue, c'est d'arriver à un accord. Est-ce qu'il faut laisser les autres élections?
Oui, Gabriel. Gabriel.
Voilà.
Oui, déjà, ces groupes de travail est mis en cause. Personne n'accepte. Nous avons vu des gens qui ont donné de la voix pour dénoncer la présence dans ce groupe de travail de certains acteurs politiques qui se passent pour des membres de la société civile.
Non, mais justement, le problème se pose dans cette incompréhension-là. La première, c'est en prenant déjà l'UDPS comme porte-parole de l'opposition, alors que nous savons que les politiciens, les partis politiques, se sont déjà regroupés. C'est déjà une indication pour dire qu'il y a une tendance à GFF, il y a l'UDPS, il y a ceci, ils pouvaient s'appuyer sur ça. Mais si on ne le fait pas, comment faire déjà désigner un parti politique comme porte-parole de l'opposition, c'est déjà biaisé le départ. Moi, je dis, il faut laisser les mains libres à Edem Kodjo. Si lui-même, en tant qu'indépendant, doit choisir son groupe de travail. Le groupe de travail, ce n'est pas pour le dialogue, c'est pour lui. Pour comprendre les enjeux et mieux préparer le dialogue. Et le but du dialogue, c'est d'arriver à un accord. On ne peut pas vider les matières du dialogue en dehors du dialogue. Autrement, ça ne servira à rien. Voilà un peu le problème.
Voilà.
C'est l'erreur du pouvoir et de la majorité.
Voilà.
Ça visait déjà l'essentiel du dialogue en dehors du dialogue.
Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir appelé des Kambov. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que, effectivement, nous parlons de cette proposition de Edem Kodjo qui, en fait, propose un groupe de travail en lieu et place du comité préparatoire. Cela ne fait pas l'unanimité. Et certains acteurs politiques qui vont même plus loin pour demander son départ de la RDC pour ne plus être facilitateur. 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et nous souhaitons en tout cas un bon débat donc à tous ceux qui sont déjà sur notre page Facebook qui continuent à commenter. Nous continuons à recevoir donc des messages que nous allons découvrir d'un moment à l'autre juste après le flash d'info. Nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission consacrée à la mise en place d'un comité préparatoire pour les dialogues inclusifs, les dialogues politiques en RDC. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour. Ma préoccupation est la suivante, je ne vois pas l'importance maintenant de M. Edem Kodjo ici au Congo, parce qu'il a fait plus de deux mois, il n'a rien fait, il n'a qu'à bien son bagage et puis rentrer. Parce qu'il n'y aura jamais dialogue, pourquoi? Parce qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a des têtes qui sont là. Ils sont là-bas, c'est pas pour bouffer l'argent. Ils donnent toute l'information à la vraie opposition qu'il ne faut pas accepter qu'il y ait dialogue. Et même au sein de l'opposition aussi, il y a des faux opposants qui sont là pour trouver l'espace politique. Entre autres, les bicapiers là, les bicapiers qu'on sort. C'est pour ça que tous les partis politiques, tous les partis doivent plutôt focaliser leurs efforts au niveau de la CNI qui est élection. je crois, voilà ma modeste contribution.
Voilà, merci beaucoup Albert. Nous allons peut-être avoir aussi un langage un peu pédagogique, dans la mesure où, c'est vrai, nous n'avons pas de preuve que Bitakwira ou encore Steve Mbikai sont en train de perturber. Ce sont des acteurs politiques qui nous devons quand même un certain respect dû à leur rang. Je crois qu'à ce niveau, les débats, tout est discutable, rien n'est encore perdu. Edem Kodjo est en train de se battre pour que finalement ils mettent à l'avant-plan des priorités, raison pour laquelle aujourd'hui, en lieu place du comité préparatoire, ils proposent le groupe de travail, question de gagner en temps et gagner aussi, disons, en temps par rapport à ce processus électoral. Merci beaucoup. Kungu, vous êtes à Libengué. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Moi, par contre, je pense que tout est parti de la proposition de l'Union africaine. On aurait dû prendre quelqu'un qui connaît l'espace politique congolais avec sa complexité, notamment l'ancien premier ministre sénégalais, Moussa Fadinas, qui a montré ses preuves comme à Syrie, ça ne marchait pas à Saint-City. On aurait pu miser sur ce monsieur-là qui connaît vraiment l'espace congolais, qui connaît la complexité du problème congolais pour le placer là-bas. Mais pour autant, le fait qu'on a pris Kodjo, c'est un grand diplomate, c'est pas pour rien, c'est pas un mina si certains commencent à penser qu'il est incapable. Non. C'est un diplomate chevronné, et de ce quoi il a été premier ministre dans son pays. Allez-vous comprendre que si aujourd'hui Kodjo mise sur l'IDPS, c'est parce que Kodjo connaît l'IDPS. Et ce n'est pas parce que Kodjo qui connaît l'IDPS très bien connaît que si aujourd'hui on remet la responsabilité des crimes des opposants à l'IDPS, en tout cas ce seraient des vrais opposants. Parce que de l'autre côté, il y a la majorité. Il n'a pas pris, imaginez, il y a combien de partis de la majorité. Mais on n'a pas pris tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons 450 partis politiques et tout le monde veut être dans ces comités. Moi, je suggère qu'il n'y ait pas de perdièmes. Et vous allez voir que les gens vont lâcher. Parce que les politiciens congolais, ils courent derrière ces histoires-là parce qu'ils savent que derrière ça, il y a quand même un profit. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit participer.
Oui.
S'il vous plaît, monsieur.
Allez-y.
Amenez des propositions. Donnez à ceux qui seront là. Si vous aimez vraiment le pays. Mais vous ne voulez pas. C'est tout le monde qui dit qu'il refuse Kodjo, qui dit des mots déplacés face à quelqu'un à qui on doit du respect. Non. Soyez respectueux vis-à-vis de certaines personnes qui ont laissé tout, sa famille, ses enfants, pour venir vous sortir de la, du crépage, je dirais même. Je pense bien que ce que j'ai suivi dans la bouche de Steve Mbikai et dans la bouche de Bitakwira, ce n'est pas correct. Il faut voir derrière ces opposants-là. Qui sont derrière eux? On sait, moi je ne peux pas sortir comme ça, je dis que je deviens opposant. Opposant simplement sur papier, opposant parce que je sais parler français, parce que je sais écrire. Non, il faudrait qu'il y ait des gens derrière moi. Qui a été, on a été dans l'élection. Les partis-là, quels sont ces partis-là qui ont drainé beaucoup plus des militants, comme c'est le cas de l'IDPS, comme c'est le cas de l'INC, comme c'est le cas du MST, qu'on est déjà. Il faut qu'on soit correct devant nous. Voilà. C'est ça qui me blesse quand j'apprends des choses pareilles. Vraiment, je suis navré de l'attitude de nos politiciens. On laisse Kodjo faire son travail et il sortira quelque chose de bien. Qu'on donne à l'IDP cette chance-là de pouvoir organiser l'opposition. Il ne faudrait pas qu'il y ait des opposants de la majorité au sein de l'opposition. Ça, c'est vraiment noyauter les...
Voilà, je crois que ça nous a inspiré d'ailleurs un débat. Nous allons relancer les débats autour de la coordination de l'opposition, aujourd'hui les porte-parole de l'opposition, parce que c'est vrai, c'est une question qui est restée pendante, personne n'en parle. Voilà qu'aujourd'hui cette affaire selon certaines personnes semble être un peu confuse, relance le débat, tout ça, pour que à la longue on ne connaisse pas de problèmes. Alors on va prendre Christophe qui est à Kinshasa. Christophe, bonjour.
Bonjour, je suis Christophe Colomoni.
Oui, bienvenue dans cette émission. Quel est votre avis?
En fait, je ne suis pas dans le débat des acteurs, selon qu'ils sont de la majorité, de l'opposition ou de la société civile. Je pense qu'il s'agit d'un problème de respecter notre identité en tant que peuple congolais. Et en nous en allant, nous en allons même pas l'État et le gouvernement et la République et la nation. Mais nous devons savoir à ce moment de l'histoire s'interroger et savoir qu'est-ce que nous voulons exactement et où voulons-nous partir et aller. Mais vous savez, le dialogue dont on parle, il a été hésitant au départ du gouvernement. Finalement, le journal de la République a pris un acte pour ouvrir le dialogue. Nous avons commencé à tâtonner dans tous les sens et nous avons réclamé que ce soit sous les auspices des Nations Unies. un facilitateur a été désigné, il y a eu une polémique, et on a confirmé ces facilitateurs par les Nations Unies. On a commencé à parler sur l'état et la qualité de la personne. Et pourtant, nous savons tous que cet homme ne sort pas du Néa. Il n'est pas né dans le Néa. Oui, Edem Kodjo, c'est quand même l'ancien premier ministre.
Tout à fait.
Il a la connaissance formelle de l'engrenage, de la politique internationale. Il fait partie du groupe des sages d'une grande commission, la commission africaine. Et je pense qu'il faut du respect envers ceux qui viennent nous servir et qui viennent nous aider. C'est important à voir les choses telles que ça évolue et le débat dans notre pays. C'est comme si nous allons finir par réclamer que Dieu descende un ange ou que lui-même encore s'incarne comme son fils pour venir résoudre nos problèmes à nous, pour nous aider, comme si nous sommes les seuls à avoir des problèmes dans ce monde. Ce n'est pas normal.
Christophe Colomoni, je vois bien, c'est Christophe Colomoni, l'ancien DG de l'FNC. Voilà. Alors, une question aujourd'hui. L'ordonnance présidentielle parlait du comité préparatoire. Aujourd'hui, on est à un groupe de travail. Vous ne pensez pas que c'est deux choses différentes?
Oui, mais justement, il n'y a pas de confusion. Mais quand vous parlez de l'ordonnance qui parle du comité préparatoire, il s'agit là déjà de travaux préliminaires au dialogue national tel qu'il a été convoqué. C'est le groupe de travail. Il s'agit là d'une organisation intérieure au point de vue de l'adaptation des problèmes et des questions qui doivent être gérées par celui qui a été désigné comme facilitateur. Il ne va pas se mettre lui-même à être le directeur de cabinet, à être le rédacteur de tout ce qu'il entend, à être l'opérateur défini de ce que c'est. Il s'agit d'un service qu'il met en place pour lui permettre de rationaliser le travail qu'il doit faire. Mais cela, ce groupe de travail, ne fait pas partie des acteurs important ou indiqué pour le dialogue lui-même. Donc on ne doit pas descendre dans une sorte d'analphabétisme de retour.
Merci.
Je dis simplement qu'il s'agit de l'organisation de son bureau.
Merci.
Je peux me parler d'un bureau technique qui le concerne, qui n'a rien à voir avec les termes et les matières retenues et retenues pour le dialogue.
Merci beaucoup, Christophe Colomoni, d'avoir contribué dans ces débats citoyens. Et vous avez appelé de Kinshasa. Merci beaucoup. Lozère, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Lozère.
Bonjour, JR. Je tiens à vous remercier pour m'avoir accordé la parole, M. JR. Voilà, mon intervention consiste en petit par rapport à la thématique du jour. Moi, je pense dans ce sens. Monsieur le Président de la République qui a convoqué le dialogue, il avait sans doute dans sa poche un ordre du jour. Je ne vois pas comment et pourquoi pouvait-il, en plus de son ordre du jour, parce que quand son ordre du jour le confier au facilitateur, à Edem Kodjo, le facilitateur, alors que c'est lui-même, dans l'idée qu'il a poussée, de convoquer le dialogue qui lui-même pouvait déjà au départ constituer un petit comité et convoquer les gens à participer directement au dialogue. Voilà, ça c'est une des premières idées. La deuxième idée est celle-ci. Je ne sais pas, M. JF, si vous savez que la radio au Capi, l'émission que vous animez, vous organisez du jour au jour le référendum. Le référendum que vous organisez par rapport à toutes les interventions des différents éditeurs que vous, qui interviennent à toutes vos émissions, vous avez toujours les avis. Est-il possible que cette émission, mais vous l'avez créée juste pour les gens qui sont, et les gens qui sont contre les thématiques que vous proposez ou pour ceux qui sont pour? Parce que généralement, il y a que ceux-là qui sont contre toutes les thématiques que vous proposez qui interviennent. Mais dans l'autre cas, c'est pour dire que les gens se frottent les mains et disent bon, nous sommes là, nous dirigeons, nous n'avons pas de problème. À part ça, je voudrais peut-être aller encore plus loin pour pousser avec mon idée, M. Gilles, si vous me permettez juste une.
Oui, allez-y, parce que vous êtes d'ailleurs le dernier auditeur.
Nous sommes en conflit avec vous. Nous sommes des voisins, vous, JR et moi. Vous êtes plus puissants que moi. Mais nous sommes des voisins des parcelles. Nous sommes toujours en conflit. Les gens qui nous voient, ils nous demandent, non, non, vous devez vous mettre ensemble pour essayer d'harmoniser vos points de vue. Mais entre-temps, vous êtes plus puissants que moi. Quand vous voyez ma femme passer,
vous donnez une gifle. Quand vous voyez mon fils passer, votre fils vous donne une gifle. Vous allez en ville avec votre voiture, vous cherchez comment me tamponner. Et puis le lendemain, quand nous rentrons à la cité, non, mettez-vous ensemble que pour que vous puissiez dialoguer. Moi, je pense que cette histoire de dialogue n'a pas sa place dans ce pays. Au lieu d'aller dans cette histoire de comité préparatoire, tout ça, le dialogue n'a pas sa place dans ce pays. Qu'on aille carrément aux élections. Qu'on laisse M. Kodjo aller, les adieux qui aillent mourir chez lui au Togo.
Voilà, merci beaucoup Lozère, c'est par cette métaphore que nous terminons cette émission. Nous disons merci également à Djedoné Nyangasa qui a assuré la mise en onde de ce programme. Julie Fezabongunda était au standard, Pierre Lamegi a réalisé cette émission, coordonnée et présentée par Gilles Louguébo sous la supervision de Martin Sebouzangé. On se prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Donc aujourd'hui, on fera le bilan de travaux de réhabilitation des infrastructures routières à travers le pays. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Okapi. Thank you.